Quid du fonds au profit des victimes près de la CPI? Droit et citoyenneté se penchent aujourd'hui sur la mise en œuvre du fonds au profit des victimes près de la Cour pénale internationale. Qu'est-ce qu'on entend par ce fonds? Comment fonctionne-t-il? Quel bilan peut-on faire ce jour du double mandat de ce fonds, à savoir l'assistance et la réparation? C'est autour de cette problématique que le magazine de promotion de vos droits et devoirs gravite. Jeff Ngoyi Mulonda coordonne et présente cette émission. Bienvenue à tous. Droits et citoyenneté, l'émission de promotion de vos droits et devoirs, se penche aujourd'hui sur le fonds au profit des victimes près de la CPI. Comment ce fonds fonctionne? Il sert à quoi depuis qu'il existe? Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce fonds? Et pour en parler, nous recevons dans cette émission les responsables de ce fonds. D'abord, Richard Boudjou, assistant au programme du fonds. Qu'est-ce qu'on entend par le fonds au profit des victimes près de la CPI?
Merci pour la question, messieurs les journalistes. Le fonds au profit des victimes, comme vous le voyez, c'est une émanation des statuts de Rome. En fait, le fonds au profit des victimes a été créé en même temps que la Cour pénale internationale, par le statut de Rome. Le statut de Rome a été signé et ratifié par des États parties, et ces États parties ont jugé beau de mettre à côté de la juridiction la CPI, à côté de cet organe qui est chargé de mener les procès contre des personnes accusées de crimes graves, des crimes de guerre, crimes contre l'humanité. À côté de cette institution-là, il a fallu une autre institution qui va maintenant s'occuper des victimes, de droits de victimes, parce que c'est un aspect unique dans cette juridiction-là qui reconnaît les droits des victimes. Je sais que tout le temps, les gens veulent aller vers les procès, mais ce que la victime reçoit, c'est un aspect qui échappe à beaucoup de juridictions. Le statut de Rome a prévu cet aspect, la reconnaissance des droits des victimes. Le fonds au profit des victimes a été créé pour justement apporter de l'assistance et de réparation aux victimes reconnues éligibles dans le cadre d'une affaire. L'assistance pour les victimes qui sont dans les pays en situation. Le fonds au profit des victimes fonctionne avec des contributions volontaires des États membres, des fondations, des personnes qui ont la bonne volonté de contribuer. Cet argent est collecté pour servir aux victimes. Voilà comment a été mis en place le fonds au profit des victimes. Alors, ça signifie que le fonds au profit des victimes, c'est une institution. Ce n'est pas une somme collectée quelque part, comme les gens le pensent. Il s'agit d'une institution qui est chargée à mettre en œuvre les ordonnances de réparation des juges et à mettre en œuvre des projets sur base des contributions volontaires. S'il y a une autre question, on peut répondre à ces questions-là.
Et vous dites que le fonds existe en même temps que le statut de Rome. Ça fait déjà plus de 20 ans que le fonds existe, mais depuis plus de 20 ans, qu'est-ce qu'on peut retenir à l'actif de ce fonds? Y a-t-il des défis à relever ou bien avez-vous rencontré des difficultés pour sa mise en œuvre, pour son fonctionnement?
Oui, merci. C'est pratiquement 20 ans parce que c'est depuis le 1er juillet 2002 que le statut de Rome est entré en vigueur, et aussi avec le fonds au profit des victimes. Les premiers projets du fonds au profit des victimes ont commencé en 2008. Et c'est plusieurs années avant l'entrée en vigueur du statut de Rome. Mais depuis que ces projets ont commencé, à l'est de la RDC, mais aussi au nord de l'Ouganda, Le fonds profit des victimes a connu des avancées significatives quant à ce qui concerne d'abord l'assistance aux victimes, parce que c'est là où ça a commencé. Les projets de réparation n'ont commencé que vers les années, vers l'année 2019, mais le projet d'assistance a commencé depuis 2008. Le fonds a travaillé dans trois provinces en RDC, dans la province de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu, avec les différentes couches sociales, avec les différentes catégories des victimes, avec les communautés les plus affectées des victimes, et dans un contexte qui n'est pas facile, contexte de la guerre à répétition à l'Est. Mais à travers tous ces défis, le fonds a réussi à atteindre, pour le premier cycle de projet qui a commencé en 2008 et a pris fin en 2017, le fonds a atteint un total de 230 000 bénéficiaires directs et indirects. Ça, c'est un record qui est visible à travers les témoignages des victimes, à travers les différents écrits, à travers les témoignages des ONG partenaires, à travers certains membres de communautés qui témoignent de l'action apportée par le fonds sur les différents domaines, dans les différents domaines, notamment la réhabilitation physique, psychologique, le soutien aux activités génératrices de revenus pour l'autonomie des victimes, mais aussi sur le plan éducation à la paix et les activités de réconciliation. Voilà un peu un ensemble d'activités que le fonds a réalisées, mais il faut noter que ça n'a pas été facile dans un contexte de guerre à répétition de l'Est. Les défis ont été énormes parce que réhabiliter une victime dans un contexte où il vit la retraumatisation, c'était défi, mais le fonds profit des victimes met en place des stratégies afin de pouvoir réussir dans son projet. C'est ainsi que, au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup de témoignages de la part des victimes qui montrent qu'il y a satisfaction. Et le fonds même se félicite du travail abattu, même s'il y a des défis qu'il faut toujours relever.
Oui. Depuis que le fonds existe, il n'y a qu'un seul projet qui a été réalisé. En tout cas, je trouve que le résultat est moindre, est vraiment minime. Un seul projet avec 230 000 bénéficiaires. Qu'est-ce qui explique tout cela? Qu'est-ce qui justifie tout cela depuis tous ces temps?
En fait, le fonds n'a pas réalisé un seul projet. Pour le premier cycle, il y avait un total de 16 projets. Et 230 000 bénéficiaires, ce n'est pas un effectif moindre. C'est un effectif exorbitant. Ce n'est pas 230, c'est 230 000 bénéficiaires. Ça, c'est un. De deux, le processus de réhabilitation n'est pas comparable au projet d'urgence. Dans les projets d'urgence, on peut exécuter les activités pendant 3 mois, pendant 6 mois, et on clôture le projet. Mais les projets du fonds profit des victimes n'ont pas un caractère de projet d'urgence. Il faut accompagner la victime dans une approche holistique, dans toutes les dimensions qui affectent les victimes, tout au long de son plus de réhabilitation. Et d'après les expériences du fonds profit des victimes, Une bonne réadaptation de la victime prend quelques années. Ça peut aller jusqu'à 3 ans, ça peut aller jusqu'à 4 ans, jusqu'à 5 ans, pour l'accompagnement d'une victime, par exemple. Parce que l'accompagnement psychologique, tel est le degré d'affection, d'affectation psychologique, tel est le degré de crime que la victime a reçu, en fait, ça affecte profondément la victime, de sorte que il existe un processus pour la détraumatisation. Et ce processus prend du temps. Et même s'il faut soutenir la victime dans une activité génératrice de revenus, la victime doit être accompagnée pendant un certain temps pour arriver à une autonomie et finalement retrouver sa dignité. C'est un travail de longue haleine qui n'est pas un travail d'urgence. C'est pourquoi vous verrez que ce processus prend du temps pour la réussite. Mais le nombre de bénéficiaires, c'est énorme, c'est exorbitant, c'est pas peu de bénéficiaires.
Actuellement, combien d'affaires connaissent ce processus de réparation et d'assistance?
Les affaires, c'est différent d'assistance. Le programme de réparation, j'ai dit, c'est à l'issue de l'ordonnance rendue par les juges et concerne une affaire appropriée. Il y a 3 affaires actuellement devant la Cour pour les réparations. Ça, c'est le cas de la RDC. L'affaire de M. Germain Katanga pour l'Ituri, Thomas Lubanga pour l'Ituri et Bosco Taganda pour l'Ituri. Mais aussi, le Nord Kivu aussi a des affaires devant la CPI, mais personne jusque-là n'a été arrêté ou reconnu coupable. Vous savez qu'il y avait les dossiers de Calliste Mbarushimana et Sylvestre Mbuzatumura qui étaient tous devant la CPI, mais jusque-là, ça n'a pas abouti. Alors, les 3 affaires pour la RDC sont devant la Cour. Pour l'assistance, il n'y a pas question d'affaires. Lorsque les juges de la Cour estiment qu'il y a eu des crimes et il y a des victimes, les juges autorisent à ce que les programmes d'assistance commencent pour les victimes, même s'ils ne sont pas passés par les processus judiciaires. Et là, c'est le faux profit des victimes en collaboration avec ces ONG partenaires qui font l'identification des victimes.
Quelle différence vous faites entre victime directe et victime indirecte?
La victime directe, c'est la victime qui reçoit une assistance directe, si on peut se répéter, du faux profit des victimes, des services directs, du faux profit des victimes. C'est la victime qui bénéficie de façon directe de tout un paquet de services que le fonds exécute à travers ses partenaires. Par exemple, une femme victime de violences sexuelles est identifiée, elle est amenée dans une structure, par exemple, sanitaire pour des soins. Ça peut être le traitement des IST, ça peut être les réparations des fistules, prolapsus, ça peut être, par exemple, des traitements appropriés sur le plan médical. Ça, c'est un service direct à cette victime-là. Ou encore, elle peut bénéficier de l'accompagnement psychologique des psychologues avec un suivi rapproché, visite et des activités de médiation. Par exemple, si elle est en conflit avec son mari, ça, c'est des services directs à ces victimes-là. Ou elle peut bénéficier d'un accompagnement à microcrédit. Ça, c'est un service direct pour la victime. Alors, elle est une victime directe. Par contre, une victime indirecte, c'est son enfant, par exemple, qui n'est pas directement affecté, un membre de famille proche, ça peut être aussi son mari, ça peut être un membre de la communauté, ça peut être les voisins, mais qui bénéficie d'une façon ou d'une autre de retombées de projet dans leur vie. Par exemple, nous, le faux profit des victimes, assiste les enfants nés de viol dans leur scolarisation. Cet enfant bénéficie de paiement de frais scolaires. Le fonds lui octroie de fournitures scolaires, l'uniforme scolaire, ainsi de suite. Les matériels didactiques, les matériels pédagogiques pour aider l'enfant. Mais ces matériels didactiques, les manuels scolaires qui sont remis à l'enfant et à l'école ne bénéficient pas seulement à l'enfant. Le matériel didactique peut bénéficier aux autres élèves aussi de la salle de classe. Les livres bénéficient à l'école. Les pupitres scolaires peuvent bénéficier à l'école. Tout en aidant l'enfant, ça bénéficie aux autres élèves. Les autres élèves deviennent des bénéficiaires indirects grâce à 1, 2, 3, 4, 5 enfants qui sont dans une même classe, dans une même école. Les bénéficiaires indirects. Et il y a beaucoup d'exemples pareils.
Identité culturelle. La culture congolaise dans sa diversité et sa richesse a un rendez-vous sur Radio Okapi. Identité culturelle aborde la culture et les arts sous toutes leurs formes. Gastronomie, littérature, les us et coutumes et tout ce qui peut redonner aux Congolais sa valeur identitaire. Identité culturelle, un magazine qui vous ressemble. Et trouvez toute l'équipe tout le samedi à 8h30, le mardi à 14h15.
Droit et citoyenneté.
Et nous passons maintenant à la deuxième partie de ce magazine, Droit et citoyenneté, pour parler des mécanismes mis en place par ce fonds afin d'identifier ses bénéficiaires. Quels sont les critères d'éligibilité? Est-ce que le fonds ne se trompe ou pas? Et Madame Kizita Fogwe, qui est responsable du programme ou manager?
En fait, il y a tout un système en place pour assurer que ce sont les victimes réelles qui bénéficient des réparations ou bien de l'assistance venant du fonds. Déjà, dans le cadre de notre mandat d'assistance, nous travaillons avec le partenaire des mises en œuvre. Et déjà, avant le début de tout projet, les partenaires sont formés à l'identification des victimes dans les différentes communautés. Nous connaissons déjà toutes les zones géographiques où les crimes sur la compétence de la Cour, ça veut dire les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, etc., ont été commis, par exemple ici en RDC. Donc, ces organisations travaillent dans ces zones spécifiques. Et c'est, les membres de ces organisations sont formés dans les critères d'identifier les victimes qui sont éligibles sur la compétence de la Cour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les victimes qui ont subi des préjudices, des crimes sous la compétence de la Cour. Un exemple très simple, quelqu'un qui a été, une dame qui a été peut-être violée par son voisin, oui, elle est victime de viol, mais malheureusement, elle n'est pas éligible pour bénéficier des services du fonds parce que cette crime n'est pas éligible sur la compétence de la Cour. Mais par contre, une dame qui a été violée par des hommes armés dans une zone en conflit, elle est aussi victime de viol, mais elle peut bénéficier comme victime qui a subi des préjudices sur la compétence de la Cour. Donc, par rapport à ce système, donc il y a déjà le fonds au profit des victimes. Il y a aussi la section de la participation des victimes et des réparations. On est là pour aider à ce processus d'identification des victimes, surtout dans le cadre des réparations. Par exemple, si une victime, pour les affaires actives, notamment pour Lubanga, par exemple, là où l'identification des victimes est en cours, si une victime se sent éligible à bénéficier à des réparations Lubanga, la victime peut facilement nous contacter, soit contacter le fonds ou bien contacter la section de participation des victimes et des réparations pour déposer un dossier. Et ça veut dire quoi? Donc, quand une victime veut participer à ce processus, après avoir contacté le fonds ou bien la section de la participation des victimes ou des réparations, un dossier est monté pour cette victime et cette victime est programmée pour un entretien avec les représentants légaux, bien sûr avec le fonds aussi. Et cette victime est posée des questions très précises par rapport au préjudice que la victime a subi, par rapport au temps où cette victime a subi ses préjudices, par rapport aux auteurs. Donc vraiment, c'est des questions très très spécifiques. Est-ce que des victimes a des témoins? Ça peut être peut-être membre de sa famille ou bien le chef du village ou bien si c'était une préjudice physique, ça peut être les hôpitaux. Donc il y en a tellement de façons de vérifier la crédibilité de l'histoire de la victime. Et après avoir cumulé toutes ces informations, c'est passé à une étude par la Chambre et bien sûr le fonds pour déterminer l'éligibilité de la victime. Et dès que cette éligibilité est déterminée, la victime peut déjà bénéficier des réparations. Dans notre mandat d'assistance, c'est différent, comme je disais tantôt. Nos partenaires de mise en œuvre qui sont formés pour identifier les victimes vont dans les communautés ciblées. Et par rapport aux critères très spécifiques, comme je disais tantôt, les crimes doivent être commis dans les circonstances qui seront éligibles des crimes sur la compétence de la Cour. Donc, dès que c'est déterminé que ces personnes sont des victimes, donc ces personnes vont bénéficier des activités dans le cadre des mandats d'assistance.
Est-ce qu'il vous arrive aussi parfois de vérifier sur le terrain ce qu'on a fait, de ce que vous avez donné, ça servit à quoi?
Oui, tout à fait. Déjà, avant de choisir un partenaire de mise en œuvre, c'est un processus très, très compétitif. Mais l'une des choses que les partenaires doivent nous donner, c'est un plan de monitoring et de suivi que eux-mêmes vont faire sur le terrain. Mais nous aussi, on a un cadre très, très rigoureux de monitoring et de suivi. Tout dernièrement, dans le mois de février et de mars, moi et ma collègue, on était sur le terrain. Donc, on était dans la province d'Ituri, on était dans la province du Nord et du Sud Kivu pour effectivement faire un monitoring des activités de mise en œuvre. On avait rencontré certains bénéficiaires, là où on a vraiment posé des questions par rapport aux services que ces bénéficiaires ont reçus et par rapport aux changements dans leur vie depuis qu'elles ont participé à ces services. Et c'était vraiment intéressant parce qu'on partait dans les hôpitaux, on a rencontré les dames qui ont eu les réparations fustiles et elles nous disaient comment leur vie ont changé. Donc, vous voyez une dame qui n'arrivait pas à sortir à cause de sa situation. Elle a reçu une intervention médicale et maintenant elle devient indépendante. Elle n'a plus besoin de rester à la maison pour se cacher et tout. Donc, c'est vraiment les choses réelles qui changent les vies. Ou bien, ça peut être aussi une victime. On a rencontré les victimes qui, sur le plan socio-économique, n'avait rien. Elle n'arrivait pas à nourrir ses enfants ou bien à envoyer ses enfants à l'école. Mais après l'intervention du fonds, donc il y a les frais scolaires de ses enfants qui sont payés. Elle a commencé un petit business pour nourrir ses enfants. Donc c'est vraiment des choses concrètes qui changent effectivement des vies. Et nous faisons ces descentes assez régulièrement, non seulement pour faire l'évaluation de la mise en œuvre des activités, l'impact, mais aussi pour vérifier les rapports financiers, comment l'argent a été utilisé, si ça a été utilisé en respectant nos processus de finances, est-ce que c'était vraiment des procédures transparentes? Est-ce que pour la sélection même des prestataires de services, est-ce que c'était un processus transparent? Donc, il y a beaucoup de choses que nous vérifions pour s'assurer l'efficacité des dépenses effectuées par les partenaires au profit des victimes.
J'ai rencontré quelques victimes de violences sexuelles au camp Mugunga, dans le Nord Kivu. J'ai visité le One Stop Center. Il y a une dame qui m'avait déclaré ceci. Elle a perdu sa maternité à la suite d'un viol collectif. Donc, elle ne pourra plus jamais concevoir. Elle vit avec ce traumatisme. À quoi va servir sa réparation? Quand vous arrivez devant un tel fait, vous vous rencontrez de tels cas, en quoi va consister cette réparation?
Ça, c'est une question très intéressante. Et malheureusement, il y en a tellement de cas comme ça que nous rencontrons des victimes qui ont perdu l'espoir complètement à cause des préjudices qu'elles ont subis. Bien sûr que le fond ne va pas créer les miracles, ça c'est clair. Mais quand même, avec nos projets de réhabilitation psychologique, on peut accompagner ces victimes à mieux accepter leur état et de vivre une vie digne et malgré toutes les choses qu'elles ont subies. Donc c'est vraiment très difficile en tant que femme. Moi-même, bon, la plupart des femmes aimeraient avoir des enfants et tout, mais quand quelque chose comme ça aussi terrible arrive, c'est juste pour amener la victime vraiment de surmonter le trauma qu'elle a subi et vraiment d'accepter sa situation et d'essayer vraiment de se réintégrer dans la société et vivre vraiment sa meilleure vie. Et en plus d'une réhabilitation psychologique et physique, on peut aussi accompagner cette victime avec une réhabilitation socio-économique comme ça, en suivant ces sessions thérapeutiques, elle peut aussi commencer à exercer un business ou bien participer à une formation professionnelle. Donc, c'est vraiment tout ce qu'on a à notre disposition. C'est vraiment de travailler avec la famille, de l'accompagner, parce que c'est pas juste le psychologue. Le psychologue va faire le travail pendant un certain moment, mais après le psychologue va partir. Mais ce qui est bien avec notre projet, comme mon collègue disait, c'est vraiment holistique, que dans les cas comme ça, le psychologue ne travaille pas non seulement avec la victime, mais aussi avec la famille et la communauté pour leur donner une formation vraiment primaire, comment accompagner cette victime, parce que c'est une situation qu'elle va vivre à vie et chaque jour, mais comme ça, elle aura toujours besoin du soutien de sa famille et de sa communauté. Mais je pense que le plus important, et c'est vraiment ce que la Cour fait, bien sûr, mais la responsabilité, c'est vraiment au gouvernement de la République de vraiment trouver les auteurs de ces crimes. Et c'est justement pourquoi on est là, on est en train de travailler ensemble avec le gouvernement et les différentes parties prenantes pour que ces auteurs de ces crimes soient arrêtés et condamnés et que justice soit faite aux victimes.
Droit et citoyenneté qui s'est intéressé au fond au profit des victimes près de la CPI est terminé. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre et bonne suite de nos programmes.